Je me présente, je suis médecin gynécologue libyen. J'étais formée en France il y a très longtemps et j'ai travaillé en Libye. Donc dernièrement, je me suis retrouvée dans une situation de crise donc, où on a nécessité beaucoup d'assistance humanitaire internationale qui est venue de tous les coins du monde durant la révolution de 2011, ou ce qu'on appelait le printemps arabe. En fait, il n'est pas printemps de temps. Ce que j'ai noté, parce que j'ai participé à beaucoup de choses pour essayer d'être là pour aider les besoins, surtout que la structure qui était déjà le système de soins qui n'était pas optimal déjà, dans la situation de guerre, elle a complètement cassé. Il n'y avait plus de structure. Et on a noté que toutes ces organisations internationales qui venaient sur place, même si officiellement il y avait de la coordination entre eux, on a bien noté que le niveau de la formation était plus de la formation qui était faite pour avoir après des données pour donner aux personnes qui payer ces organisations et que sur place il restait rien. Il y avait moi j'avais on a tous hein, tous les gens locaux que on a travaillé sur place avec eux, on a noté qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, ils avaient plus d'intérêt que le rapport vis-à-vis de soit concret que la continuité aujourd'hui. 4 ans après, on est en 2016, 5 ans bientôt, toutes les organisations qui sont venues chez nous, il n'y a pas de continuité. Dès qu'ils sont partis, leur travail a disparu. Et ça, c'est grave parce que, justement, je voudrais qu'on puisse quand même donner plus d'importance à laisser quelque chose sur place, changer les choses. C'est pas parce que... Voilà.
Je crois que la question que vous posez est tout à fait importante. C'est pour ça que, lorsque j'ai essayé d'expliquer du collège, on s'était toujours appuyé sur, justement, une organisation politique locale, où on s'est toujours situé dans le cadre de la formation, en s'appuyant sur les autorités universitaires, hospitalières, locales, pour qu'effectivement, il reste quelque chose. Alors, mais quand il y a une situation de guerre, les choses sont plus compliquées parce que, évidemment, c'est devient très déstructuré et ça devient souvent même les ONG se retirent parce que c'est dangereux et puis c'est le bazar plus complet. C'est ce qui se passe actuellement au Burundi, GSF, il n'y remet pas les pieds parce que c'est assez instable. En Centrafrique, ça a été tout à fait déstabilisé par le conflit qu'il y a eu. Et même au moment de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, même les... pourtant il y avait une fac solide avec des collègues bien formés, les gens, ça a déstructuré tout. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors il faut effectivement, si on veut s'inscrire dans la prolongation, qu'il y ait une certaine stabilité politique et une certaine stabilité aussi des autorités, du ministère de la Santé, des hôpitaux, etc. Il y a beaucoup de pays où... On voit un ministre et puis 6 mois après, il est parti, il y en a un autre, il faut rediscuter, il n'est pas là. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas tout à fait de notre faute. D'autres questions?
Oui, j'ai une question à poser dans la continuité de celle qui vient d'être posée. Je suis anthropologue. Je suis Doris Bonnet, je suis anthropologue et j'ai une longue expérience au Burkina Faso où j'ai justement vu des politiques de jumelage entre des services qui avait justement l'intérêt de lutter contre ce côté fugace que Madame parlait, de gens qui partent assez vite. Et je me demandais si, pour justement avoir cette politique suivie, répétée, avec des stages de personnels qui viennent dans des services en France, des personnels français qui vont faire des services, des formations au Sud, donc un suivi... égalitaire et du type de compagnonnage dont parlait M. Martis, je crois. Est-ce que à Gynécologie sans frontières, vous avez déjà pensé que c'était possible de soutenir ce type de politique de jumelage entre des services de maternité?
Alors, j'ai une question pour GSF, monsieur le vice-président.
Oui, oui, bon, vous m'entendez là? Sinon, je vais prendre l'eau. Alors, pour le Burundi, une fois qu'on a mis en place l'idée de faire le projet, avant de commencer tout ça, le problème, c'est de trouver de l'argent. Donc, il y a pour ça, avec la FHF, la Fédération Hospitalière, des programmes de participation nord-sud entre deux hôpitaux. Donc là, pour le Burundi, en l'occurrence, on a mis en jumelage l'hôpital dans lequel je travaillais, avec l'hôpital dans lequel on travaillait au Burundi. C'est un projet AFD, Agence française de développement, relayé par la FHF. Et comme ça, on peut avoir un budget. Donc ça demande beaucoup d'écriture, mais bon, une fois qu'on en a fait un, c'est bon. Mais voilà. Effectivement, c'est un très bon moyen. Et le fait d'avoir un support, même si ce n'est pas énormément d'argent par rapport aux finances, mais d'avoir une caution AFD, Agence française de développement ou fédération hospitalière, ça permet après, ça fait un peu boule de neige quand on va présenter le projet à d'autres institutions ou d'autres instituts privés, de voir que ben il y a déjà une caution entre guillemets morale, administrative, universitaire derrière. Donc voilà, ça a répondu.
Je vais continuer dans la même veine. Donc, Michel Rivière, sage-femme et représentant le Collège des sages-femmes et en même temps directrice d'école de sages-femmes. Donc, bon, on a parlé beaucoup de la formation des sages-femmes et effectivement, dans le cadre de ce qu'on avait pu pendant un temps avec le Collège national des gynécologues obstétriciens mettre en place avec l'école de sages-femmes de Saint-Antoine, les étudiants sont partis. Alors, il y avait effectivement... Pendant plusieurs années, on a pu mettre en place un compagnonnage, même un tutorat avec des enseignantes de l'équipe qui sont parties pendant plusieurs années pour mettre en place et accompagner les professionnels, donc les sages-femmes de Vientiane en particulier, à acquérir et à travailler sur ces notions de compétences qui ont été évoquées tout à l'heure. Et puis, comme l'a précisé M. Lansac, pour des raisons... pas toujours très très simples et qui sont des raisons locales, on n'a pas pu poursuivre cette expérience, mais effectivement, d'école à école, c'est quelque chose, ou d'école de sage-femme ou de structure locale, on essaierait bien, et les étudiants français sont assez demandeurs de ce type de développement et d'action de formation qui sont très riches pour les uns et pour les autres. Je dirais que là, par contre, le poids et des finances et des politiques de chaque côté et représente malheureusement des freins importants.
Je crois que votre remarque est tout à fait importante. Et il y a des accords universitaires. On a situé celui de Marie Curie avec Vientiane, mais il y en a eu d'autres. Nous, le CHU de Tours, on était mariés donc avec Pompène. Bamako est marié avec Angers, etc. Et donc, ça permet des échanges et un suivi. Et également, c'est très bon pour nos propres étudiants nationaux. Parce que, comme le disait Madame Rivière, on a envoyé des élèves sages-femmes de quatrième année dans le stage hors CHU. Elles ont vu une pathologie qu'elles ne voient pas, elles ont vu d'autres manières de travailler. Ça a été une expérience humaine, une expérience riche pour elles. Et ça a permis aussi de montrer mieux qu'un grand discours comment on travaille chez nous. Et donc de dire, par exemple, aux sages-femmes de Pompène qui faisait l'épisiotomie à tout le monde, mais on peut faire l'accouchement sans, et les sages-femmes le font sans faire une épisiotomie, par exemple. Donc je crois que c'est très bien, ça s'inscrit dans la durée, ce qui n'empêche pas de vous inscrire aussi dans des cadres. Mais il me semble, moi, je défends l'idée que si on n'a pas un appui local avec les structures locales, et puis s'appuyer sur notre ambassade, parce que aussi on est français, bon, il y a des moyens, ça permet d'en débloquer. Ça donne un côté, j'allais dire, officiel et une relative continuité. Madame, question. Alors évidemment, après, s'il y a la guerre, on ne peut rien. C'est autre chose.
Bonjour.
Oui. Oui, madame.
Bonjour, je suis sage-femme. Alors j'ai une question.
Où vous êtes sage-femme, où?
Ah, un peu partout, avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières.
Ah bon, donc itinérante, vous êtes
voilà,
pas...
Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai une question avec tous les collaborateurs, les ONG surtout. On se situe entre substitution, renforcement des systèmes de santé. Est-ce que maintenant, il y a, avec la question d'empowerment, est-ce qu'il y a une stratégie, une nouvelle stratégie sur un nouveau renforcement où vraiment le pays est au centre de tout ? Et on n'est pas juste là à proposer des choses, mais là où vraiment il y a une dynamique de leader et d'impulser en fait une dynamique d'empowerment.
J'allais dire de mon expérience de terrain, c'est je trouve ça très bien. Après, quand je vous ai présenté, je vous ai parlé des messages, je vous ai dit au départ où est-ce qu'on travaillait. Parce qu'effectivement, on voit bien, il n'y a pas de choses qui sont poses. Quand on travaille, pour travailler en Afghanistan ou au Yémen ou en République démocratique du Congo, la question n'est pas de, on n'est pas en train de travailler dans des infrastructures fonctionnelles. C'est pas fonctionnel. Il n'y a pas de personnel. Donc effectivement, j'allais dire pour répondre pour MSF, c'est pas notre axe d'action, mais au contraire, il y a d'autres organisations qui vont le faire. Donc nous, effectivement, on se situe dans un champ d'action. Pour lequel, on n'est pas... Et peut-être pour faire le lien avec ce qui était dit sur la formation, notamment on travaillait en République démocratique du Congo, et c'est vrai que je pense qu'il y a une responsabilité, pour être aussi au collège en France, il y a une responsabilité du collège en France, qui a des liens avec la SAGO, d'insister sur la pratique. Alors là, au-delà même des sages-femmes, là c'est peut-être l'obstétricien qui parle, qu'effectivement on soit, et je me mets dedans, des obstétriciens qui fassent de l'obstétrique, pas seulement de la césarienne, mais toutes les compétences obstétricales. Je pense aux extractions instrumentales, où effectivement dans un certain nombre de pays, ce qui est dit, c'est que c'est d'arrière-garde et que ça ne se fait plus. Je pense qu'on a une expérience française de la mécanique obstétricale et des manœuvres obstétricales. Et là, ça, c'est pas du tout, c'est pas un travail d'une organisation comme MSF, c'est plus un travail, en fait, notamment des universitaires ou du collège, de transmettre aussi, en fait, ces bonnes pratiques. Et voilà, c'était aussi pour faire le lien. Alors, je pense peut-être que Sandrine, de Médecins du Monde, c'est peut-être une autre position, vous faites aussi d'autres choses.
Moi, je voulais dire qu'il y a en fait place pour les deux types de choses. C'est-à-dire que, il y a les opérations coup de poing qui sont vraiment un peu la spécialité de Médecins sans frontières. Enfin, je caricature à peine, mais bon. Et puis, il y a aussi. Mais c'est vrai qu'on voit quelquefois, on a un peu trop l'idée que les ONG sont là pour faire des opérations de sauvetage. Et puis, il faudrait développer, et ce que je pense que vous faites plus ici, là, de l'écologie sans frontières, les actions de longue durée et de long terme. Mais ça, elles ne peuvent se faire, moi je regrette de le dire, que si localement, on a des relais et des volontés politiques réelles et suivies dans le temps. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est pas à nous de tout faire. On ne peut pas se substituer, ça vous l'avez dit. Et je pense que ça, faut insister là-dessus.
D'autres questions,
remarques ? On avait la réponse de le commentaire de Sandrine Simon de l'ADM.
Non, mais je pense qu'il faut peut-être aussi arrêter de faire la dichotomie entre substitution et long terme. Je pense qu'il y a des temps, et Médecins du Monde fait aussi de temps en temps de la substitution. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Et je pense qu'il y a ce qui est important, c'est de voir quel est l'objectif, et je rejoins madame, à long terme, et où on veut aller, et quelles sont les étapes pour aller jusque-là. Et quelles sont les étapes en fonction du contexte et d'une compréhension assez fine de la situation du système de santé et de la situation de la communauté aussi. Au-delà de ça, il faut essayer d'embarquer petit à petit les gens vers quelque chose. Mais effectivement, si à un moment donné, il y a une structure de santé où il n'y a aucun équipement et aucun médicament disponible, Médecins du Monde aussi, à certains moments, va apporter l'équipement, quitte à après travailler sur le système d'approvisionnement local. Donc voilà, je pense que c'est aussi comment on se situe sur la durée et dans le long terme. Et je voudrais dire que pour ça aussi, il faut que... Alors nous, on n'a pas l'indépendance financière que peut avoir MSF, mais il faut aussi qu'avec les bailleurs, on arrive à travailler sur aller au-delà des durées de projet qui peuvent être de 1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois, il faut plus de temps que ça pour qu'un système de santé puisse s'autonomiser.
Très bien. D'autres remarques, questions ?
Juste faire une remarque sur ce qui a été dit en parlant non seulement de la mortalité maternelle, mais on a beaucoup insisté aussi sur la santé de reproduction et la santé sexuelle et les adolescents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que là, les sages-femmes ont une très très grande place en tant qu'acteurs de santé à pouvoir jouer dans toutes ces actions de formation. Et c'est un temps qui est extrêmement important, pas que dans le temps de l'accouchement. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, le programme de formation ayant changé, les futures sages-femmes seront de plus en plus formées à pouvoir délivrer ce type de formation et de message lorsqu'elles s'engageront dans ces actions.
Moi, je voulais rajouter une petite chose par rapport à MSF, MDM et GSF. Et en fait, le discours, il change un peu, surtout depuis peu, depuis Calais. Mais ce qu'on peut reprocher, moi, je pense que chaque action est importante. Quand vous arrivez qu'il n'y a rien, effectivement, il faut construire. Après, nous, on cherche où il y a quelque chose pour améliorer. Les missions d'urgence, il ne faut pas les... Moi, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais je pense qu'il y a un problème entre MSF, MDM, les grosses ONG et les petites. C'est que la transmission, puisque vous allez partir, et ça, vous savez que quand vous partez, c'est quand même un effet... Il y a un effet down après, quand même. Il y a une grande claque en retour, une fois que vous partez. D'accord, tout s'arrête. Et je pense que par rapport à ça, donc vous livrez le bateau au gouvernement, qui ne peut pas s'en servir parce que c'est trop important pour lui, bien souvent, et ça tombe en désuétude. Ça, on est tous conscients là-dessus. Mais ça fait partie de la politique de MSF ou MDM, je connais moins. Mais... Et je trouve que nous, justement, on pourrait venir faire le relais. Et là, quand on est en international, je dis parce que ça a changé depuis peu, parce qu'à Calais, c'est complètement différent. On est à une espèce d'amour entre MSF, GSF, MDM. Mais là, c'est du jamais vu. C'est vrai. Et voilà, ils se voient. On est sur le terrain. Mais international, oui, mais en international, entre les gens de terrain, il y a toujours de l'amour, c'est sûr. Mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués par le siège. Et en international, au Burundi, on a quand même réussi à avoir un partenariat avec MSF un peu intime. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment remonté vers le siège. Ça restait au niveau du Burundi. Ça marche. Et en fait, les gens, ils demandent que ça, parce que ça marche entre nous. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que là, on voit la cohésion qu'il y a entre les trois ONG dans le centre de Calais. C'est incroyable, quoi. Tout le monde travaille ensemble dans le même but. Alors qu'on sait qu'en international, c'est le bordel intégral entre toutes les ONG, chacun de son côté, et personne ne veut collaborer avec les autres. D'accord.
Je me permets une petite... Non pas, alors, je ne suis pas non plus la représentante de la grosse ONG, hein, je suis une gynéco-obstétricien de base, alors c'est vrai qui ai travaillé depuis un certain temps avec MSF, parce que j'ai fait ma première mission en 99, et j'ai fait des missions longues, et puis aussi, après, je n'ai pas un temps salarié au siège, hein, je suis un temps sur 5 à 10 %, mais effectivement, je connais aussi les contraintes du siège et la grosse machine, et aussi voilà, tous les aspects négatifs de la grosse boîte. Hein, mais effectivement, tu l'as bien dit, en fait, sur Calais, on est ensemble sur un projet, ça se construit, c'est une évidence. Après, c'est vrai que je ne crois pas qu'il n'y ait pas forcément de... En tout cas, il n'y a pas de volonté de ne pas coopérer. C'est comment est-ce qu'on le fait sur le terrain ? Qu'est-ce qui... Voilà. Quand on dit qu'on part sur des projets, on y est quand même très longtemps. Et puis on fait la vague, on est... Alors, la République démocratique du Congo, Nord Kivu, pour moi, c'est un exemple. Hein, j'y suis allée plusieurs fois. Voilà, c'est calme, et vous vous dites, bon, alors on va envisager de se désengager. Donc voilà, dans les 6 mois, 1 an, puis tout d'un coup, hop, ça repart le conflit. Et voilà, donc c'est quand même un enchaînement comme ça. C'est l'Afghanistan, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un pays en guerre, en instabilité ? Comment est-ce qu'on classe ? Et pourtant, il est super aidé. Donc est-ce qu'on serait dans du développement ? C'est un entre-deux. On a aussi, enfin, il y a tout un questionnement. C'est-à-dire que, comme ça affiche... Ils sont très forts, c'est les cow-boys. On a aussi des fragilités, on le sait. C'est-à-dire que c'est compliqué. Et cette discussion de comment on passe de l'un à l'autre, elle existe depuis 15 ans. Et pour l'instant, ou plus, Et on a du mal à... Parce qu'effectivement, dans la boucle, il n'y a pas que les ONG, il y a aussi les organismes internationaux, les bailleurs, la coopération, et le politique local. Et le politique local, en tout cas, alors peut-être parce que ça n'est pas mon domaine, je trouve que c'est assez complexe à comprendre.
Mais, la société civile, mais toutes les dimensions anthropologiques aussi.
C'est ce que j'allais rajouter aussi, mais enfin, je pense que je rejoins complètement le discours. Et pour être tout à fait honnête, j'ai aussi travaillé avec MSF avant. Donc, j'étais presque aussi moi touchée de. mais je pense qu'il y a effectivement des complémentarités. Juste pour donner un exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a envisagé à un moment donné, je ne suis pas sûre que ça va se faire finalement, mais que MSF travaille au niveau de l'hôpital de référence parce que c'est ce qu'il sait mieux faire. Et nous, on ne sait pas faire à Médecins du Monde, j'allais dire MSF. C'est ce qu'on ne sait pas forcément faire à Médecins du Monde, mais parce qu'on n'a pas les ressources humaines, pas les compétences à ce niveau-là. Mais de Médecins du Monde intervenir au niveau primaire parce que c'est ce qu'on sait mieux faire et au niveau communautaire. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on arrive à travailler de plus en plus. C'est la complémentarité des acteurs parce que chaque acteur a ses limites, ses contraintes. Et après, travailler les questions des engagements, c'est effectivement clé, mais pour tous, même quand on fait du développement, au final, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer aussi dans les cadres logiques, pour parler un peu gestion de projet, dans les cadres logiques des projets, parce que ça implique de ressources, ça implique des moyens et ça implique du temps qu'on n'a pas forcément. Donc ça, c'est aussi quelque chose à considérer.
Et une remarque concernant l'action politique. Dans les topos de ce matin, il y avait un temps dédié à l'action politique de la France. J'ai passé un certain temps, je te remercie de m'avoir donné des coordonnées, pour essayer de faire venir quelqu'un soit de l'Agence française du développement, soit du ministère des Affaires étrangères. Je n'ai pas réussi. Et je trouve que c'est un stigmate de plus pour dire que l'action politique, elle est bien sûr nécessaire, mais qu'est-ce que c'est difficile d'avoir du relais, d'avoir de l'explication, d'avoir des gens présents, investis, etc. pour parler de ça. En tout cas, ce matin, ça a été une illustration de plus, je trouve. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Ouais.
Si ce n'est pas hors sujet, pour ceux qui sont impliqués dans les actions Nord-France auprès des immigrants, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur ces actions-là ? Parce que je pense que c'est intéressant. J'ai vu ça, j'attends un petit peu à voir.
Claude, tu veux peut-être répondre à ça. Tiens, on va faire parler d'autres présidents.
Les gynécologues, en tout cas, comment vous aidez ces femmes ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Je veux bien vous dire deux mots sur les migrants et sur notre place de Gynéco sans frontières. Comment on est arrivé là-bas ? Ben, c'est tout simplement une sage-femme qui nous a un jour téléphoné, qui nous a dit « il se passe quelque chose de catastrophique à Calais » parce que personne n'en parlait, c'était encore en octobre. Et c'est donc une sage-femme qui tournait autour de ces camps qui nous a dit « venez voir, nous sommes... » monté avec Richard, qui est le référent maintenant de cette mission, Serge, qui est là-haut, nous avons été constatés l'innommable, l'ignoble. Nous avons vu que dans les pays des droits de l'homme, des femmes, des enfants et des hommes, bien sûr, vivaient dans des conditions complètement indignes sur le plan des toilettes, sur le plan des sanitaires, sur le plan... ne peuvent pas se laver, sur le plan de l'alimentation, sur tous ces plans-là. Donc ça a été notre premier choc, mais véritablement un choc. Nous, toute l'équipe de Gynéco sans frontières est restée pendant plus d'un an à Zaatari, à la frontière syrienne en Jordanie. Nous avons fait 1500 accouchements sous la tente. On trouvait déjà que c'était des conditions très, très difficiles d'exercice. On pensait là-bas avoir connu des conditions de guerre dures. Et quand on a vu Calais, on a dit qu'on n'avait rien vu en Jordanie. En Jordanie, c'était le paradis. C'était quelque chose de... là, nous avons connu réellement et nous avons touché du doigt ce qui était l'ignominie dans le pays des droits de l'homme. Et ça nous a profondément touchés. Et bien entendu, notre action dans ces camps-là, c'est pas d'aller faire des accouchements au milieu de la boue sous les couéchats. Ça, c'était pas pensable. contrairement à Zaatari, il n'y avait pas 75% de femmes à Calais ou à Dunkerque dans le camp de Grande-Synthe. Là, il n'y a que 10% de femmes. En tout, sur toutes les migrantes, elles sont peut-être entre 800 et 1000. Elles ne sont pas très, très nombreuses. En plus, comme il y a les forces de l'ordre partout, vous avez des CRS, vous avez tous les robocops qui sont absolument partout, elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles ont côtoyé les violences tout leur trajet de chez elles, en passant par la Grèce, la Turquie, la Serbie, tout ce que vous voulez. Elles ont été violées, elles ont été violentées, ou elles ont été d'une façon ou d'une autre. Elles ont subi les passeurs, elles ont vraiment vécu. Donc la femme migrante est beaucoup plus agressée que les jeunes gamins migrants. Je suis désolé, c'est peut-être pour eux quelque chose aussi de difficile, mais la femme migrante paye un lourd, lourd tribut parce qu'il y a la violence tout au cours de son état de migration. Et alors là, nous, il faut qu'on les trouve. Donc contrairement à un médecin où on s'installe et on attend que les gens viennent à nous, dans les camps, c'est à nous d'aller vers les migrants, d'aller les chercher, parce qu'elles sont sous l'attente. Parce que quand on vient de déménager, là, lundi, le camp de Grande-Synthe, c'est en déménageant le camp qu'on a trouvé qu'il y avait des femmes. Elles étaient dans leur tente, elles ne sortaient pas. Elles sont enceintes dans leur camp. GSF suit à l'heure actuelle 40 femmes enceintes dans ces camps, hein, de façon générale. Enceintes de 8 mois, de 9 mois, elles essaient de monter sur les camions pour aller en Angleterre. D'accord ? Donc on n'arrive pas à leur faire comprendre que la France aussi peut être une terre d'accueil. Elles sont complètement maintenant obnubilées et on se charge, beaucoup de gens se chargent pour leur dire « Allez en Angleterre, il n'y a pas de tentative finalement d'intéressement vraiment au système français ». Et puis on vient de le constater. Il y a eu deux façons entre Calais et Dunkerque de traiter le problème des réfugiés. On a vu le problème de Calais, la ville de Calais, qui avait ce camp de réfugiés, vous avez suivi et vous avez vu comme moi que ce sont les bulldozers qui ont sorti les réfugiés. Alors qu'ils soient 1000, 2000, on n'en sait rien. De toute façon, ça a été traité à coups de CRS et de bulldozers. On a déplacé, ça a permis de déplacer ces migrants. Où est-ce qu'ils sont? Certains sont peut-être partis dans les CAO au niveau de la France, mais pas tous. D'autres se sont répartis dans les camps. Mais ça s'est fait dans la tristesse, ça s'est fait dans l'agression, ça s'est fait là aussi d'une façon inhumaine. Et puis un tout petit peu plus loin, à 30 km, vous avez la ville de Dunkerque et le camp qui s'appelle Grande-Synthe, où là, c'est MSF, il faut quand même reconnaître la puissance de Médecins Sans Frontières, associés à la ville et à la mairie de Grande-Synthe, qui ont décidé de faire ce qu'il fallait faire, à mon sens, c'est-à-dire un camp humanitaire, transitoire, aux normes de l'UNHCR, aux normes des camps de migrants, pour les mettre dans la dignité. Et là, nous sommes allés hier, simplement, nous avons vu en très peu de temps toutes ces baraques en bois, et ce que j'ai vu par rapport à Calais, c'est que j'ai vu des migrants qui jouaient au foot, qui chantaient, qui dansaient, qui avaient l'envie de revivre. Et ça, cette différence est fondamentale. Vous avez deux camps à 30 km de différence qui ne sont pas gérés de la même façon. Et vous voyez le comportement des migrants, il est évident, il est visible. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur notre ressenti sur les migrants de Calais. Merci.